Il est 6h21. Depuis le début de la guerre à Gaza, il y a presque 2 ans, plus de 210 journalistes ont été tués, encore 5 la semaine dernière. Et ceux qui restent nous informent au péril de leur vie. Reporters sans frontières appellent les médias du monde entier à se mobiliser. Aujourd'hui, 250 ont répondu à l'appel, dont Radio France. Bonjour Thibault Brutin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. Pourquoi mobiliser aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, là, faut faire quelque chose?
Ça fait évidemment plus de 18 mois que RSF est mobilisé aux côtés des journalistes de Gaza. Mais là, on a senti un point de bascule avec la frappe du 10 août dans lequel Anas al-Sharif a péri, mais également celle du 25 août dernier. Je crois qu'il y a un moment d'émotion. Et évidemment, pour nous, il est vraiment fondamental de montrer qu'il y a une fraternité dans la profession. Je crois que c'est la fraternité qui sauvera la liberté de la presse et c'est véritablement ce qu'on essaye d'exprimer aujourd'hui.
D'autant que ce que vous nous dites, c'est que pour beaucoup de ces journalistes qui ont été tués, ils l'ont été vraiment volontairement, ils ont été ciblés par l'armée israélienne.
Il y a 220 journalistes qui sont morts à Gaza depuis le début du conflit. Pour 56 d'entre eux, Reporters sans frontières est en mesure d'apporter des informations qui indiquent un ciblage. Donc les journalistes ne meurent pas. Ils sont tués délibérément par les forces armées israéliennes dans un très grand nombre de cas.
Parce que journalistes.
Parce que journalistes, parce qu'il y a une politique délibérée qui est mise en œuvre par l'armée israélienne, qui va d'abord de la fermeture de la bande de Gaza à la presse internationale, qui passe ensuite par la mise en place d'une cellule qui est chargée de campagnes de discrédit, de dénigrement.
Cellule au sein du renseignement israélien.
Au sein du renseignement militaire, qui permet donc de dire, sur la base de preuves qui sont complètement invérifiables, que tel ou tel serait terroriste. Et puis à la fin, il y a des assassinats ciblés, puisque je crois que c'est comme ça qu'il faut les appeler.
Avec des ciblages aussi téléphoniques, des journalistes sur place qui reçoivent des messages via WhatsApp.
Les forces armées israéliennes savent très bien qui sont les journalistes, savent très bien où ils sont. Et c'est pour ça qu'on a effectivement, oui, des appels sur les téléphones portables des journalistes qui leur disent
«
partez de cette maison, quittez cet endroit, etc. » Donc, quand on nous dit « on ne savait pas que les journalistes étaient là », on n'y croit pas une seule seconde. C'est pour ça qu'il y a eu un tel choc avec la frappe du 25 août. L'hôpital de Khan Younes, le troisième étage, c'était un endroit qui était connu comme un espace où les journalistes avaient accès à un bon réseau. Donc, quand il y a eu deux frappes, coup sur coup sur cet endroit, eh bien, je crois que c'est pas cohérent avec la connaissance que les services de renseignement israéliens ont.
Thibault Brutin, qu'attendez-vous de cette journée? Vous pensez vraiment qu'une mobilisation médiatique, même avec 250 médias, va faire changer Israël, la position d'Israël ou ce que fait Israël vis-à-vis de la presse?
Il faut voir que c'est une responsabilité collective. Bien sûr, les forces armées israéliennes ont vraiment la bride sur le cou. Et je crois que le gouvernement Netanyahou ne fait pas grand cas du cadre de protection internationale des journalistes. Il faut que les États qui le souhaitent fassent pression de façon forte. Et on les entend peut-être pas assez. Nous, on en appelle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Faire en sorte que la France, le Royaume-Uni, d'autres pays qui en sont membres, demandent la tenue d'une réunion spécifique sur ce point. C'est fondamental. 10 ans après l'adoption consensuelle d'une résolution, la résolution 2222, qui dit sans détour que c'est la responsabilité des pays belligérants que de permettre la couverture des conflits et d'assurer la protection des journalistes. Mais on pense aussi qu'il faut dire que la campagne de dénigrement qui est portée par les forces armées israéliennes contre les journalistes gazaouis, eh bien elle ne marche pas, elle ne prend pas. Et c'est pour ça que le slogan, il est clair, au rythme où les journalistes sont tués à Gaza, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. C'est un slogan qui est fédérateur. Nos demandes, elles sont claires. Ouverture de Gaza, fin des crimes commis contre les journalistes. Et puis, c'est aussi fondamental, évacuation pour les journalistes palestiniens qui le souhaitent.
Le fait que la bande de Gaza soit complètement interdite aux journalistes étrangers, là, ce dossier n'avance pas du tout actuellement ?
Il a pu avancer, il avance à des degrés divers en fonction des pays avec qui on discute. Et je salue la mobilisation de certains États qui ont fait de l'évacuation des journalistes palestiniens une priorité. Force est de reconnaître qu'on n'a pas réussi à obtenir des lignes d'évacuation qui soient stables, pérennes, sur le long terme. Pourtant, on a énormément de demandes. Et quand on voit le ciblage dont font l'objet les journalistes, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être priorisé. C'est une urgence aujourd'hui.
250 médias, je le disais, ont répondu à votre appel à l'appel de Reporters sans frontières. 250 médias de 72 pays, c'est bien ça?
Absolument.
Il y a des médias israéliens ou américains?
Alors, des médias américains, oui, on a NPR, on a The Intercept, le grand média d'investigation, on a la Columbia Journalism Review, qui est une autorité morale dans la profession, j'en passe, c'est les meilleurs. Côté israélien, on a évidemment plus de difficultés à mobiliser. On voit d'ailleurs l'isolement dont fait l'objet Haaretz, par exemple, qui ose avoir une couverture critique, mais on a 972, ce journal d'investigation qui unit israéliens et palestiniens. Je crois que c'est fondamental d'avoir leur engagement, mais on a des médias de tous les continents, je veux dire, en Argentine, au Brésil, en Tchéquie, en Égypte, à Taïwan, vous avez des journalistes, des rédactions qui se sont mobilisées et ont répondu à l'appel. Je crois que c'est fondamental d'avoir cette unité dans la profession.
Thibaut Brutin, les journalistes palestiniens qui aujourd'hui encore, malgré les menaces, malgré la faim, parce qu'en fait ils la vivent cette guerre aussi, hein, ces journalistes palestiniens, est-ce qu'ils sont aussi une cible du mouvement terroriste Hamas ?
Le Hamas a historiquement tout fait pour essayer de contrôler l'information à Gaza. Aujourd'hui, il a, je dirais, une sorte de combat pour sa survie militaire. Les premières violences qui sont commises contre les journalistes, c'est évidemment les forces armées israéliennes aujourd'hui. Mais oui, le Hamas a des organes de propagande, mène aussi une campagne de désinformation massive sur ce qui se produit à Gaza. Et c'est pour ça qu'on a besoin de presse indépendante. Il faut comprendre que s'il n'y a plus de journalistes, ça va être propagande contre propagande. On va être pris entre la propagande israélienne et la propagande du Hamas, et je crois que personne ne veut ça.
Merci Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières. Vous étiez l'invité du 5-7.